Radio Autre Culture. Bonjour, émission également diffusée sur audiopeople.fr. Aujourd'hui, nous avons la participation de Philippe Tessier-Ducrot. Bonjour Philippe.
Bonjour.
Qui est ingénieur du son et producteur.
Oui, enfin, enfin, petit producteur, comme pour le bon vin.
Comme pour le bon vin. Et nous avons également Christophe Bouillot. Bonjour Christophe.
Bonjour Marion, bonjour Philippe.
Bonjour Christophe.
Je vais vous citer.
Oula.
Mon métier m'a souvent permis de réaliser mes rêves grâce aux artistes qui m'ont fait confiance. Je n'ai jamais rêvé de communication. Alors moi, je suis contente en entendant la conclusion de la prendre au premier degré et me dire que je suis ravie que vous puissiez faire marche arrière et faire la communication en étant ici.
Mais c'est drôle, je ne me souviens pas avoir... J'ai dit ça, j'ai rêvé...
Oui.
Ah bon?
Je ne l'ai pas inventé.
D'accord, ok.
Ah, ça vous laisse perplexe.
Légèrement, oui, ça me surprend, je suis un peu surpris. Vous pouvez répéter la phrase, la fin?
Je n'ai jamais rêvé de communication.
Peut-être que j'ai pas... Alors, je pense que ça doit vouloir dire probablement dans un sens marketing.
Ah, peut-être, ça... moi je l'ai prise au premier degré.
Moi j'adore la communication, j'adore rencontrer des gens, j'adore les recevoir chez moi. Non, peut-être que je pense à la communication telle que parfois évoquée dans le monde moderne, c'est-à-dire la langue de bois, c'est-à-dire le mensonge, c'est-à-dire des paroles qui s'évaporent, non suivies par des actes.
Vous êtes un être pur alors?
Non, j'aurais pas cette prétention, j'aurais même un peu peur de l'être trop. J'ai beaucoup de défauts, j'ai beaucoup d'impuretés aussi. Merci, Dieu merci. Non, certainement pas. Mais par contre, c'est vrai que j'aime bien la vérité, j'aime bien avoir des relations vraies avec les gens. Ça m'a posé beaucoup de problèmes du reste. Aujourd'hui, j'apprends un peu mieux à maîtriser parfois certains aspects un peu frontaux, un peu directs, hein. Mais en même temps, je pense que si j'ai pu parfois blesser, je pense qu'en même temps, je continue dans mon travail aussi à être respecté par cet aspect-là. C'est-à-dire que un jour, par exemple, je me souviens à la fin d'un concert d'une artiste qui s'appelle Rokia Traoré, où elle se produisait à La Cigale, qui est une personne avec laquelle j'ai travaillé sur trois projets, en France et à l'étranger, entre autres au Mali. J'ai été la voir backstage à la fin du concert. J'avais été très ému de voir ce concert. J'ai trouvé qu'elle avait fait un super boulot, que l'orchestre était super, c'était magnifique. Puis c'est toujours amusant de voir beaucoup de gens rassemblés dans une grande salle pour écouter un disque qu'on a confectionné dans un petit studio. C'est super touchant. Mmh. Et je suis allé la voir, j'ai dit super, ok, magnifique. Elle m'a dit, si ça vient de toi, c'est que ça doit être vrai. Voilà, ça m'a vraiment fait plaisir. je me fais comprendre. Mais... Donc voilà, mais c'est marrant. Tiens, aujourd'hui, je reformulerai peut-être pas comme ça. Donc, je suis un grand adepte de la communication, mais de toute façon, je ne vois pas comment je pourrais faire mon métier autrement. En fait, je suis un grand adepte de répondre aux sollicitations et de ne pas laisser les choses lettre morte, quoi. Et essayer d'avancer, essayer de construire. Je suis contre le pointillé, qui conduit fatalement au blanc, quoi. Donc j'aime bien relancer, j'aime bien proposer, mais j'aime bien que ça se fasse le plus possible en vérité, parce que c'est la seule façon de faire des belles choses, à mon sens.
Vous êtes ingénieur du son depuis plus de 20 ans.
Oui.
Et vous avez commencé en étant diplômé de l'école Louis Lumière.
Oui.
Qu'est-ce que vous a apporté cette école dans votre métier?
Alors, cette école, elle m'a apporté... D'abord, elle m'a apporté une réponse à mon papa et à ma maman. Parce que chez moi, il est plutôt de tradition de faire des études, déjà. Alors, je dis ça tout simplement parce qu'à l'époque où moi j'ai commencé ce métier, avoir fait des études d'ingénieur du son était plutôt mal vu. Ça m'avait frappé, ça, quand j'étais arrivé, quand j'avais tenté de mettre mes petits pieds dans les studios. Souvent, le fait de ne pas apprendre sur le tas faisait l'objet d'un certain mépris. Le fait d'avoir fait une école, ça a beaucoup changé et c'est pour le très grand bien du métier. Bon, j'ai fait une école tout simplement parce que chez moi, il était d'usage pour faire un métier de faire une école. Même si je considère qu'il y a de très, très excellents ingénieurs du son qui n'ont jamais fait d'école, qui ont appris sur le tas, c'est indiscutablement une très bonne méthode aussi. Moi, j'ai fait... Déjà, j'ai fait une école parce que ça correspondait à une tradition familiale de faire des études, un métier des études. Après, une école, on peut fonctionner de deux manières. C'est un peu comme au resto. On peut fonctionner à la carte ou au menu. Je dirais que si on fonctionne à la carte, c'est une école où on a des... Bon, on apprend de l'électronique, on apprend, je pense, des choses comme on les apprend dans toutes, à peu près, les écoles de son. À ceci près qu'il y a une certaine exigence au niveau du recrutement qui fait qu'on travaille plutôt avec des gens... On se retrouve avec des camarades de classe qui sont plutôt des gens, en tous les cas... qui ont des basiques sérieux. Après, on peut fonctionner à la carte. Et là, c'était intéressant parce qu'on pouvait sortir du matériel, on pouvait aller enregistrer le soir dans des églises, dans des salles. Moi, c'est ce que j'ai fait. Ensuite, ce que m'a apporté l'école, c'est le fait d'apprendre à apprendre. et surtout de considérer que l'apprentissage, ça se doit d'être absolument respecté. Et on apprend très vite qu'on ne sait rien en en sortant. Mais déjà, je pense que c'est pas mal d'avoir fait des études, ne serait-ce que pour apprendre ça. Se rendre compte que tout d'un coup, on a en face de soi quelqu'un qui travaille, et puis ça devient un tout petit peu mystérieux, parce qu'on s'aperçoit qu'il ne sait peut-être pas forcément le formuler comme les professeurs, mais qu'il a ça en lui, et on se dit que la route va être longue, quoi. Mais en même temps, ça permet d'avoir des bases théoriques, que je pense quand même importantes. Enfin, c'est bien de les avoir. Après, ça dépend comment on a le cerveau fait, quoi. Je veux dire, quand j'ai des jeunes qui viennent me voir pour me dire qu'est-ce que tu penses de faire des études, bah d'abord, je leur demande s'ils sont heureux d'en faire, s'ils sont contents au lycée. Et si le môme, ça l'emmerde royalement, bah, je lui suggère peut-être de commencer par la petite porte. Après, on doit scoltiner les parents, mais les choses ont un peu changé. Voilà un peu ce que m'a apporté l'école de lumière. Des bons souvenirs, des bons amis aussi, des gens que j'ai continué à voir, et puis certains d'entre eux font des carrières intéressantes, on se recroise et c'est assez plaisant.
Vous avez monté votre studio à quelle époque ? Enfin, c'est pas un studio d'ailleurs. Vous travaillez dans plusieurs studios, d'après ce que j'ai compris.
Oui. Alors, c'est un peu. Je dirais que j'ai eu plusieurs. En fait, je pense avoir fait mon métier sous des. Un peu de toutes les manières. De manière très, très différente, suivant des étapes de vie. J'ai été à la fois salarié dans un studio, j'ai été partenaire, associé, puis j'ai été freelance. Puis après, j'ai très vite pris conscience qu'il était important par rapport à ma façon de fonctionner, par rapport à ma nature, en apprenant à se connaître un peu mieux, que je suis un farouche indépendant. J'aime être indépendant. Et je pense que c'est un choix que j'ai fait assez tôt, c'est-à-dire indépendant aussi sur le plan des investissements matériels, indépendant aussi, j'ai très vite compris que pour répondre aux artistes avec lesquels il m'intéressait de travailler, il fallait que je sois le plus indépendant possible, pour des raisons économiques. Mais j'ai eu plusieurs statuts, en fait. Voilà. Et donc là, maintenant, j'ai mon studio de mixage personnel, dans lequel il m'est possible aussi de faire des petits travaux d'enregistrement complémentaires. Comme je suis quand même plutôt habitué à travailler sur des projets basiquement acoustiques, même s'il y a de l'électronique après ou pendant, mais enfin, j'ai l'habitude quand même, j'ai souvent besoin de grands espaces. Mais en même temps, je n'ai jamais voulu, enfin, je l'ai été un peu, mais ça ne m'a pas vraiment réussi. Je n'aime pas trop être dépendant d'un lieu. Parce qu'au bout d'un moment, dépendant d'un lieu, ça veut dire plus dépendant de faire tourner le lieu que d'avoir un rapport avec des projets musicaux intéressants. Je pense qu'il y a des projets musicaux très très intéressants qu'on peut faire dans une église un dimanche après-midi. Il y a des projets très très intéressants qu'on peut faire dans cette pièce. Il y a des projets très très intéressants qu'on peut faire dans des gros studios, que l'on doit faire dans des gros studios. Mais moi, j'aime bien l'idée de pouvoir proposer des prestations libres et les adapter aussi à l'économie de la personne qui est en face de moi, parce que tout le monde ne peut pas non plus se payer un très grand studio pour enregistrer un voix-guitare. Et pourtant, il y a plein de gens qui n'ont pas un rond, qui font des super voix-guitares. Et ça, c'est une prise de conscience que j'ai eue très tôt, et j'en suis assez heureux, parce qu'elle correspond quand même à l'évolution aujourd'hui. Voilà, j'aime être souple, j'ai pas envie de systématiquement devoir dire « on va faire ça dans mon studio », parce que c'est pas forcément la meilleure solution, et sur le plan technique, mais aussi sur le plan économique. Et ça, c'est des choses qui sont rarement abordées dans les écoles. Aussi. Et c'est dommage. C'est dommage qu'on n'apprenne pas à un gamin qui sort d'une école que s'il adore les grosses consoles NIF de 90 voix et qu'en plus il aime bien l'Afrique, et ben il est mal barré. C'est aussi difficile de dire à un gars que s'il adore Johnny Hallyday et qu'il veut l'enregistrer dans son salon, et ben il est mal barré. Il ne va pas faire ça avec un 4S. Il y a quand même des choses qui ne sont jamais évoquées. Et c'est dommage, c'est un peu l'esprit français, ça aussi. On ne parle pas de l'argent, on ne parle pas de ces trucs-là. Mais il y a beaucoup, beaucoup de musiciens que j'ai vus, de jeunes ingénieurs qui, des fois, sont en errance et alors ils rêvent de trucs incroyables. Et ce n'est pas raccord avec la musique qu'ils veulent faire ni avec l'économie qu'elle peut générer. C'est aujourd'hui un point essentiel, je pense, qu'il faudrait aborder un tout petit peu dans les écoles. C'est expliquer qu'on peut faire des choses géniales avec des gens géniaux, avec un micro peut-être pas cher, mais qui va peut-être permettre de voyager et de se payer un billet d'avion. Et des fois, ce sera mieux au résultat que d'avoir le super micro et que personne derrière, parce que personne ne peut se le payer. Voilà. Donc ça fait partie, c'est ça la motivation profonde.
Vous êtes en freelance.
Oui.
Comment ça se passe quand vous travaillez, vous choisissez un studio ? C'est par rapport à l'espace qu'il propose ? Mais est-ce que c'est également par rapport au micro qu'il propose ? Ou alors vous avez vos petites mallettes de micro et vous venez avec ?
J'ai ma mallette de micro. Quand j'enregistre, que ce soit dans un studio, dans les studios avec lesquels j'ai un partenariat, ou par les hasards de l'existence ou les nécessités, là je dois faire le prochain disque de Michel Portal, on va le faire à New York. J'ai fait des fois plusieurs disques à New York. En d'autres temps, je partais avec des micros. Aujourd'hui, avec les problèmes de passage de sécurité, je n'avais plus le faire parce que je n'ai pas forcément envie de retrouver mes micros bloqués en douane. Mais pour moi, la façon avec laquelle on choisit la méthode d'enregistrement, c'est le croisement entre les nécessités techniques et les nécessités économiques. voyez, par exemple, le week-end dernier, je suis descendu dans le sud de la France pour travailler avec un musicien malgache que je connais depuis très longtemps, qui n'a pas un rond, et en même temps, il fait de la travel music. Alors, qu'est-ce que je lui ai dit? Je lui ai dit, je vais descendre chez toi avec mon ordi, des convertisseurs et mes micros, et on va aller travailler chez la grand-mère de ton assistant. D'un assistant qui lui file des coups de main quand il fait des prises comme ça. Voilà. Et on a fait des basses batteries comme ça, et ça s'est très bien passé. Et puis, il va venir dans mon studio de mix pour faire les voix guitare parce que j'ai une petite pièce qui le permet. Par contre, la semaine prochaine, je fais un disque où il y a Higelin qui vient en invité, des gens quand même. Voilà. Ça, je le fais dans le studio à Montreuil. Mais il y a la problématique technique de ne doit jamais être un frein à l'envie de rencontre avec un artiste. Jamais. Et je pense qu'il y a toujours des solutions pour faire de la très belle musique, et même si c'est au détriment de l'aspect technique. Ça, pour moi, c'est fondamental. J'ai un vrai goût aussi pour les imperfections.
Avant de parler des musiciens avec lesquels vous avez travaillé, j'aimerais que vous nous racontiez la petite anecdote que vous citez dans votre blog avec le tromboniste Josh Rosman, où vous avez eu des difficultés de micro.
Si, c'était rigolo, oui. Voilà, alors ça, c'est le dernier disque de Boyan qui est sorti là, récemment chez Universal, qu'on a enregistré au studio de Meudon, studio où je suis allé plusieurs fois. J'aime bien aller là-bas aussi parce que d'abord Bernard, je le connais depuis longtemps. Et puis il a un piano Fazioli. Et Boyan ne joue que sur Fazioli. Et il se trouve que le studio à Sequenza, il y avait un problème de planning. Donc on est allé le faire à Meudon. Ce qui n'est en aucun cas une problématique. Bien au contraire, on est toujours très très bien accueillis là-bas. Et il a un tromboniste en effet. Alors moi j'ai l'habitude de bosser avec des trombonistes qui ont, comme on dit vulgairement, on dit qui envoient. Un genre de gars comme Glenn Ferris par exemple, c'est un tromboniste qui vit en France, qui a joué avec Zappa, qui a joué avec des gens comme ça, qui a une dynamique absolument foudroyante. Eh bien j'ai trouvé plus fou que lui quoi. Et le tromboniste en question, il a la plus grosse dynamique d'enregistrement que j'avais jamais vue. C'est-à-dire, pour le coup, c'est pas qu'il va très fort forcément uniquement, c'est qu'il va très faible déjà. Et on s'est retrouvé avec aucun micro qui pouvait l'enregistrer. Et il m'a dit, t'emmerde pas, il y a qu'une seule solution, c'est d'avoir un 441, il n'y en avait pas au studio. Et c'est vrai que depuis, je me suis menti à moi-même parce que je me suis promis qu'il fallait absolument que j'en ai, ce que j'ai toujours pas fait. Pas tout, on peut pas avoir à la fois du fléa. Hein, bon, et qu'est-ce qui vaut mieux, du fléa ou du 441 Voilà. Mais on a fini par s'en sortir. Je sais plus. On avait chopé un 421. Bon, ce qui est assez rigolo, c'est que par contre, ce qui était sympa, c'est que Josh, c'est un type qui habite à Brooklyn. Donc c'est un gars qui a l'habitude d'être réactif, qui est dans une ville où ça avance vite. Donc si vous, il m'a pas fait non plus un caprice dramatique qui aurait conduit à l'impossibilité d'enregistrer. Tu n'as pas ton... Bon, on s'est adapté, on a chacun... et finalement, le 421 marchait très bien. Voilà. Je ne sais plus si il en avait un au studio, si on est allé en chercher. Enfin, c'était pas dramatique. En fait, si j'ai raconté ça sur mon blog, c'est parce que c'était vraiment rigolo, quoi. Parce que je n'avais jamais vu un mec avec une telle dynamique, mais surtout, je n'avais jamais vu un mec jouer aussi doucement. Et tout d'un coup, vous balancez un truc. Et c'est vrai qu'au début, j'étais tout content d'essayer des micros à ruban. Je n'ai pas beaucoup la culture du ruban. Alors là, j'avais mis aussi un 67, ou je ne sais plus, enfin un Neumann. Et ça distordait. En plus, lui, il a son studio. Il a une oreille très, très, très subtile. Et très vite, on s'en est rendu compte.
Oui, alors pourquoi dans ces cas-là, il ne vous a pas prévenu à l'avance? Parce que s'il avait son studio, il devait savoir pertinemment qu'il avait un problème de dynamique et qu'il ne pouvait pas utiliser n'importe quel micro.
Je pense que soit parce qu'il c'est un coquin très drôle, et il est très humoristique et ça fait pas, c'est un gars marrant. Et c'est parfois un petit jeu que les musiciens font aux ingénieurs. Bon, mais aussi probablement parce que je pense que c'est un mec qui est respectueux des gens avec qui il travaille et qu'il se dit le gars a mis ça, le gars doit savoir ce qu'il fait, on essaye et puis il dit rien. Ce que je trouve plutôt sympathique. Et puis, on s'est rendu compte que ça ne marchait pas. Et puis, on a changé notre fusil d'épaule. Mais enfin, on n'a pas du tout été dans un drame. Enfin, ça n'a pas gâché de prise. À l'arrivée, c'était plutôt... on s'en est très, très bien sortis. Et le truc, c'est qu'aujourd'hui, je saurai, quand je recroiserai, ce qu'il faut faire. Mais ça fait aussi partie des trucs sympathiques quand on fait des disques avec des gens, en particulier des gens comme Boyan, que je connais depuis 10 ans. C'est qu'il amène des musiciens que je ne connaissais pas, en l'occurrence. C'est toujours, à chaque fois avec lui, il fait chaque nouveau disque, il fait table rase du précédent. C'est un mec qui est un guerrier, qui prend des risques. Et donc, ça fait partie du jeu aussi, se tromper un peu, passer à côté, essayer. Et ça crée des liens. Ça crée des séances dont on se souvient. On va se recroiser avec Joss peut-être à Brooklyn. Je vais dire, oh, le 441, c'est bon, hein, tu sais, tu devrais essayer ça. Et on va rigoler. Bon, voilà. C'est comme ça que je le vis.
Autre réflexion que vous citez dans votre texte, sur votre blog, et là on en discutait avec Christophe tout à l'heure, quand vous dites avant que ce micro parte en pré-retraite,
oui.
Qu'est-ce que ça sous-entend?
Oh bon, c'est un trait d'humour, apprendre vraiment, parce que j'ai cru comprendre que parfois, on dit qu'à Abbey Road, il était interdit, avant que Geoff Emerick foute un peu le bordel avec les Beatles, de mettre un micro de grosse caisse à moins de 30 ou 40 cm de la peau. Alors moi, je ne savais même pas que des choses comme ça pouvaient poser des problèmes. On m'a dit qu'effectivement, la pression acoustique sur un micro inadapté pouvait tuer le micro. Et je crois savoir qu'à cette époque-là, dans ce studio, les assistants avaient carrément une amende, ou si ce n'est, devaient repayer le micro automatiquement. Alors évidemment, prendre des risques avec le groupe numéro un du moment, c'est quand même plus facile, parce qu'ils ont les moyens de racheter tout le studio. Donc évidemment, c'est beaucoup plus simple. Ça n'est pas mon cas. Et je pense que c'est un trait d'humour qui voulait simplement dire « avant que ce micro soit foutu », quoi. Et en plus, il n'était pas le mien, en l'occurrence. Donc, ça m'aurait encore plus gêné pour Bernard, qui est un type sympathique comme tout. Voilà, donc c'est ça, c'est tout simple. Faut pas chercher.
Non, c'était pas. Je me suis posé la question si c'était pas aussi un abandon de ces micros vers l'achat de nouveaux micros, parce que tout ce qui est nouveau est beau.
Ah non, pas du tout, non. Non, c'est un trait d'humour qu'il faut prendre basique. J'ai quand même dit pré-retraite, j'ai pas dit retraite. Hein.
Oui.
Il y a quand même une marge de manœuvre.
Vous travaillez sur tout un registre de musique très différent, qui est aussi bien de la variété que du jazz, que de la musique world. Vous vous sentez bien dans tous ces types de musique?
Oui. Alors déjà quand même, je ne travaille pas dans ce qu'on appelle la variété à part égale. Hein, je ne pense pas que je suis pas quelqu'un qui fait ce qu'on appelle de la variété française. Je dis ça sans aucun mépris. Je fais plutôt effectivement du jazz, des musiques du monde ou de la chanson. J'ai plutôt tendance à dire de la chanson. Et je me sens bien dans toutes ces musiques parce que pour moi, je ne voudrais pas rentrer dans les banalités, mais pour moi, il y a la musique. Au sens large, je peux très bien chez moi écouter du Ligeti et enchaîner avec Madonna, quoique Madonna pas beaucoup en fait finalement, mais je peux très bien enchaîner du Ligeti avec un disque de Coltrane. Enfin, pour moi, il y a des correspondances comme en poésie. Enfin, il y a des choses qui sont de la musique. Et du reste, on rencontre assez peu aujourd'hui de musiciens qui prétendent faire partie uniquement d'un. C'est assez modernisé. Ça, on a beaucoup avancé quand même à ce niveau-là. Les musiques se croisent. Non, je pense que j'essaie d'enregistrer de la musique avec des vrais artistes. Voilà. Au-delà, c'est pas vraiment un problème de genre. Je crois pas. Donc je me sens plutôt bien. Oui, je me sens assez cohérent. Je crois que j'enregistre de la musique que j'aime écouter en général.
Quand ces groupes ou ces chanteurs viennent vous voir, je pense à William Baldé ou Quentin Mosiman.
Oui.
Est-ce que vous avez une idée en tête où on vous dit, tiens, on préférerait tel type de son? Comment ça se passe?
Bon, là, vous citez deux exemples qui sont très, très particuliers, très originaux, je dirais, dans le travail que je fais habituellement. Je m'en explique. Concernant William, j'ai été contacté par le réalisateur, enfin la personne qui devait réaliser le disque, qui m'avait contacté après avoir écouté le disque de Pierce Faccini, qui est un disque qui avait été réalisé par Vincent Segal.
Qui est plutôt de la pop, celui-là.
Qui est plutôt de la pop, ouais. Oui. Qui est plutôt de la pop, plutôt esprit Nick Drake, des choses comme ça, quoi. Qui me correspond évidemment, a priori, beaucoup plus. Bon, il se trouve qu'il avait adoré ce disque et il avait adoré le son. Soit dit en passant, c'est un disque qui pour moi est important parce que c'est un disque qui m'est souvent revenu comme étant un disque avec un très beau son. Donc ça fait toujours plaisir à un ingénieur du son qu'on lui dise ça. Et qui plus est, c'était un grand plaisir parce que Pierre, c'est un garçon charmant. J'adore bosser avec Vincent, ça fait depuis 20 ans qu'on se croise. Et donc, même si quand j'ai écouté la musique de William, ça n'était pas une évidence que je sois tout à fait dans cette approche-là, mais en même temps, j'aime aussi la mise en danger. J'aime bien rompre avec les habitudes. J'aime bien rencontrer des gens nouveaux. J'aime bien rencontrer des gens nouveaux, même si au départ, ça ne semble pas être automatique, parce qu'il y a toujours quelque chose qui se passe après. Et c'est une conviction absolue. Il y a toujours, même si on va sur un projet qui n'est pas forcément dans la continuité de ce qu'on a fait jusque-là, il y a toujours quelque chose à apprendre. Il y a toujours des gens nouveaux à rencontrer. Et là, en l'occurrence, j'ai rencontré des gens super. Et ça a été un grand plaisir aussi parce que, pour le coup, c'est des disques qui sont destinés quand même à avoir une existence commerciale importante avec une grosse promotion. Donc, on travaille dans des conditions. On est parti quand même 15 jours, je sais plus, 10 jours au studio Vega pour faire les prises. C'est intéressant aussi parce qu'on prend du temps pour faire des sons de batterie, pour chercher. On se trouve avec des musiciens qui sont peut-être, qui sont un peu différents, qui sont des musiciens qui sont plus des gars qui vont être capables de s'adapter aux souhaits d'un réalisateur, jouer un peu moins fort sur le refrain, appuyer un peu plus à grosse caisse. Des choses qui sont un peu différentes des artistes avec lesquels j'ai par ailleurs l'habitude de bosser, qui font plutôt leur musique, et c'est encore autre chose. On est un serviteur. De toute façon, vous savez, moi, je veux dire, le plus beau compliment qui m'a été fait, c'est sur une pochette de Mali, qui m'a dit, il remerciait les musiciens, il me remerciait en disant, je remercie à Philippe d'avoir été à la fois le maître et le serviteur. Ben voilà, moi, je suis très content de ça. Le maître, non pas dans le sens tu m'obéis, mais dans le sens je maîtrise. Et le serviteur, parce qu'on fait un métier, on est au service aussi. Donc, si on considère que je peux faire un joli son pour un gars comme ça, je trouve ça super.
Est-ce qu'on vous demande, quand ce sont des disques de ce type-là, je pense également à celui de la Star Academy, Quentin, est-ce qu'on vous demande une compression particulière ?
Non.
Pour le passage en radio, je
pense. Non, d'abord parce que, alors concernant la compression particulière, on ne me la demande pas. Bon, là, on arrive à un sujet intéressant qui est le sujet du mastering. On pourrait revenir où je travaille avec quelqu'un depuis de longues années avec lequel j'ai vraiment une amitié et une véritable complicité dans le travail. Et j'ai très confiance en lui, et il y a des fois des choses comme ça que je lui laisse. Moi, je sais que je n'ai rien du tout contre la compression, bien au contraire, c'est un outil, un de mes outils favoris. Après, il y a manière et manière de les utiliser. Hein. Sur le disque en question de Quentin, c'est très particulier parce qu'en fait, j'y suis arrivé parce que un des musiciens de William a un big band et il voulait absolument que je travaille. Donc, c'est pas une sollicitation qui est venue de la maison de disque. Je me suis retrouvé sur cette histoire un peu après qu'il y ait eu des choses qui se soient passées, qui convenaient pas, etc. Donc, j'ai repris les mixages. Mais en général, les gens qui viennent me voir, à tort ou à raison, mais parce qu'ils estiment que j'ai une certaine façon de travailler et une certaine couleur. Après, si on me demande de faire des choses, je les fais. Si on me demande de faire des trucs que je n'aime pas, j'arrête de bosser, en gros. Donc, c'est assez simple, en fait. C'est basique. J'arrête de bosser. Si on me demande... Ça dépend dans quel esprit la chose est demandée. Mais je n'ai jamais été confronté à des souhaits brutaux où on me dit, il faut faire ci, il faut faire... Ça m'est arrivé une fois ou deux d'avoir, par exemple, quelqu'un qui arrive, qui me dit, bon, voyons ce que tu as fait, on va reprendre un par un les trucs, etc. Là, je dis, stop, c'est pas la peine, ça sert à rien. De toute façon, ça sert à rien parce que ça ne peut pas... Il y a un besoin de confiance dans le travail. Si on a quelqu'un qui passe derrière vous, c'est comme si moi, si je suis derrière un mec qui compose et qu'à chaque fois, je lui dis, t'es sûr, c'est pas possible, quoi. Ça marche pas. Voilà. En général, j'ai une certaine liberté.
Est-ce que vous vous considérez comme un artiste ?
Non. Je suis un artisan. Je suis très fier de ça. Je suis un artisan. Dans artisan, il y a Zan. Bon, je sais pas trop quoi dire là-dessus, mais enfin, il y a un peu artiste. Je pense qu'il faut avoir un sens artistique pour faire ce métier, c'est indéniable. Maintenant, dire que je suis un artiste, ce serait prétentieux. C'est aux gens qui travaillent avec moi de le dire. Certains le pensent, d'autres pensent. Moi, je suis un artisan. Je suis un artisan, donc un peu artiste, oui, mais je suis aussi quelqu'un qui doit être là à l'heure. Je suis aussi quelqu'un qui n'a pas à se faire des caprices d'artiste. Je n'ai pas du tout à profiter d'un éventuel statut d'artiste. Je suis aussi un technicien. Je dois être à l'heure. Je dois avoir du matériel qui marche et je ne dois pas avoir des vapeurs. Donc, c'est aussi ce qu'on attend de moi. J'ai, je pense, une sensibilité artistique. Je pense que je suis capable de savoir quand une chanson fonctionne ou quand un morceau fonctionne, d'éventuellement pouvoir avoir une opinion que d'aucuns considèrent comme valable. Mais je ne prétends pas être un artiste et je ne cherche pas à l'être. Je suis un artisan et je suis très fier de ça.
Tu es musicien ou pas ?
J'ai fait de la musique.
Tu as fait de la musique, tu connais.
J'ai fait de la musique, j'ai fait du piano, j'ai fait de la batterie. Après, je pense avoir une sensibilité musicale. Je pense avoir une grande culture musicale. Ça, je pense que c'est indiscutable. Maintenant, je suis un artisan. Je pense que j'arrive à communiquer avec les artistes, mais je pense pas être un. Non, je ne suis pas un artiste.
Deuxième volet, c'est la musique que j'appellerais pop.
Ouais.
On parlait donc de cet artiste tout à l'heure.
Pierce. Oui.
Pierce. Comment vous avez abordé ce disque qui est magnifique ?
De la façon la plus...
Pierce Faccini,
ouais.
C'est son Leave No Trace.
Oui, c'est son premier disque. Ouais, c'est drôle parce que on devait... En fait, le monde est cruel déjà. On a fait ce premier disque sous la direction artistique de Vincent. On était parti pour faire le deuxième, puis ça ne s'est pas fait. Enfin bon, après, il y a des choses cruelles qui se passent dans la vie. Mais aujourd'hui, je peux en parler. À un moment, je n'en aurais pas parlé. Aujourd'hui, je peux en parler parce que ce qui reste, c'est que du bon. Vous savez, abordée d'une façon extrêmement simple. D'abord parce que quand on travaille avec un réalisateur comme Vincent, qui est un type non seulement talentueux, mais très intelligent, ben pour on recroise la question de tout à l'heure, il sait très bien que je donnerai le meilleur de moi-même dans la liberté. Donc, d'une manière générale, déjà, il me fait confiance dans mes choix microphoniques, dans ma façon avec laquelle je pense qu'il faut isoler le musicien, qu'il faut mettre la batterie en ou hors cabine. Et de toute façon, on a les mêmes façons de penser les choses avec Vincent. Donc, tout ce qui a été fait n'a en rien été la résultante d'une réflexion dramatique, de réunion, de choses comme ça, comme souvent les meilleurs disques, comme souvent les meilleures choses. Donc, ça s'est fait avec un peu de bon sens, un peu d'expérience, beaucoup de tranquillité et avec une espèce de... On avait quand même un truc un peu magique, on avait quand même une certaine conviction au fur et à mesure qu'on faisait vraiment quelque chose de chouette. Et on se sentait bien en le faisant. Ce que je peux vous dire par contre, c'est que quand je suis revenu à la maison avec les mises à plat, ça m'avait frappé ça. J'avais réécouté comme ça, comme souvent, je vis avec le disque et je m'étais dit, au mix, va pas falloir trop bosser. Et ça, ça c'est un truc vraiment important. C'est pour ça que j'ai de toute façon tous les projets, j'ai toujours les mises à plat avec moi. Et quand je mixe quelque chose qui n'est pas enregistré, je demande toujours les mises à plat. Parce qu'il n'y a pas de raison que 6 mecs dans un studio soient à ce point-là stupides de faire que de la merde. Ce n'est pas possible. Il y a un moment, la mise à plat, elle a une valeur. Et si tout d'un coup, je mixe et je m'aperçois que je suis totalement à côté de la mise à plat, je ne vais pas faire « Oh, qu'est-ce que je suis fort !» Je vais me poser des questions sur mon travail. Parce que quand même, quand des musiciens viennent en cabine et qu'ils écoutent, ils réagissent. Et si ce qu'ils entendent, c'est vraiment à l'envers de ce qu'ils veulent entendre, en général, il y a changement de cap. Donc ça a forcément une valeur. Et des fois, on mixe, on va passer 5 heures à installer un disque, à commencer un truc, et on est là. Et puis tout d'un coup, on met la mise à plat, et puis on s'aperçoit soit que c'est la même chose, ce qu'on avait fait en 10 minutes, ça fait 5 heures qu'on le fait, en tous les cas, et sur le plan technique, et sur le plan émotionnel. Voilà, ça m'avait frappé. Je m'étais dit, les mises à plat, elles sont super. Il ne faudra pas aller trop loin, il ne faudra pas chercher à mettre je ne sais pas quoi comme réverb, machin, parce que c'était comme ça, et c'est même ça qui m'a fait peur. Sachons vraiment rester simple. Parce que ça fonctionnait, mais parce qu'il a des très belles chansons, vous savez, hein, quand un mec, il vient là, il prend sa guitare, il chante, faudrait vraiment, vraiment, vraiment être complètement à l'ouest pour pas arriver à capter une émotion. Parce que c'est ça, hein, c'est ça l'arrivée qui est.
C'est un disque qui s'est fait rapidement ?
Bah, par rapport à mes habitudes, je dirais qu'on a pris un peu de temps, mais par rapport aux habitudes de certains, ça a été super rapide. Oui, on a enregistré en 5 jours et on a dû mixer en 4. 4 ou 5. Moi, des fois, je reviens un peu... Vincent, les gens qui travaillent avec moi le savent. Des fois, je mixe tout seul, ils viennent, ils écoutent. Puis des fois aussi, je vis un peu avec le disque. Ça m'arrive de dire à l'artiste, tu sais, tiens, j'ai retouché un peu là, parce que dans le refrain, je pensais qu'elle est un peu plus, les chœurs un peu plus. Je trouvais que c'était plus joli sur l'ensemble du disque. À ce niveau-là, ils me font confiance. Puis je garde toujours l'ancien truc. Mais c'est une façon de fonctionner... avec les personnes avec lesquelles j'ai la chance de travailler, c'est ce respect de la liberté. Or ça, je ne peux pas travailler. En fait, c'est mes limites que j'avoue. Hein. Ce n'est pas des possibles, c'est des limites. Hein. Si on me dit qu'il faut faire comme ça, je ne sais pas. Quoi. Je sais faire que ce que je sais faire. Et puis voilà, et je n'y arrive bien que dans la liberté. Quand je réécoute les choses qui me semblent être les plus réussies, c'est en général des choses où j'étais assez libre avec des gens qui respectaient cette liberté comme je respectais la leur. Voilà. C'est super simple en vérité, hein. Rien de compliqué. Hein.
Est-ce que vous acceptez un projet par rapport à la beauté du projet ou par rapport aux sommes d'argent ?
Alors là, très franchement, j'ai jamais... Alors je ne sais pas ce qu'on appelle somme d'argent. Évidemment, comme tout individu qui aime le son, on s'est intéressé aux grands projets historiques. Moi, je n'ai jamais travaillé dans des projets avec des sommes d'argent. Vous pouvez virer 2-0 dans la moyenne, en gros. Hein. Bon, je gagne correctement ma vie. Je fais globalement à peu près ce qui me plaît. J'investis tout dans mon métier. Je sacrifiais en souriant beaucoup de choses à ce métier pour faire la qualité artistique comme étant le déterminant. Voilà. Après, si vous voulez, il y a des fois, il y a des choses qui vous semblent peut-être un tout petit peu moins intéressantes, mais elles peuvent le devenir. Il y a des choses. On aime toujours les projets sur lesquels on travaille. D'abord, le projet sur lequel on travaille, c'est forcément le mieux qu'on a fait de sa vie, quoi. Et ça, c'est une bonne chose aussi. Moi, à chaque fois que je travaille sur un projet, j'ai l'impression que c'est le mieux que j'ai fait, quoi. Je suis content de ces mix. Ah, je suis content, c'est bien. Et ça veut pas dire que je me regarde le nombril en disant que je suis merveilleux, mais c'est comme ça, c'est un peu magique. Hein. On travaille sur un disque, on vous fait écouter les maquettes, des fois, évidemment, des fois, on fait génial. Des fois, on ne pouvait pas écouter de maquette du tout, parce que moi, en général, les projets sur lesquels je travaille, il n'y a pas de maquette. Hein. Les gens qui arrivent, ils se mettent à un studio, puis ils jouent. Hein. Mais il y a des choses, on sait que ça va être formidable, et puis il y a des choses qui le deviennent. Mais c'est là où c'est quand même, on peut dire quand même, la vie est belle. C'est que globalement, on finit par les aimer, les projets. On finit vraiment par les aimer. Voilà. Donc, mais c'est quand même, c'est toujours l'artistique qui est le déterminant. C'est pour certainement pas l'argent. Ça, non.
Fin de la première partie avec Philippe Tessier-Ducrot. Merci Philippe, rendez-vous à la semaine prochaine pour une deuxième partie. Ici, autre radio, autre culture. Au revoir. Autre radio, autre culture.